RFI, 8h30, à Paris, 7h30, en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, c'est une première. En 28 ans, le Burkina Faso à l'honneur au FESPACO. Dany Kouyaté a emporté l'étalon d'or de Yenanga hier à Ouagadougou. Son film Katanga ou la danse des scorpions a été salué par le jury. Le réalisateur burkinabé a dédié son prix au regretté Souleymane Cissé. 11 corps sans vie enterrés hier à Agadez, c'est ce que rapporte la radio nationale nigérienne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une base militaire du nord du pays a été ciblé par une attaque djihadiste. Le JNIM revendique avoir tué 15 militaires. Il n'est toujours pas sur la liste électorale, mais compte bien peser à la présidentielle d'octobre. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo tenait hier un meeting de pré-campagne et vous l'entendrez, ses militants sont déterminés. Au sommaire également, on est au Sénégal qui a vu sa note dégradée par l'agence S&P. Elle passe de B+ à B. Et puis, quel impact des coupes dans le budget de l'USAID? Si aux États-Unis le débat est surtout politique, on le verra sur le terrain, les conséquences, elles sont bien réelles. Les ONG vont devoir suspendre leur programme d'urgence.
Le jury décerne l'étalon d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga.
Katanga!
Katanga! La danse des scorpions.
C'était hier, dans un palais des sports de Ouaga 2000, archibondé. Dany Kouyaté a remporté l'étalon d'or de Yenanga, clap de fin de la 29e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision. Et Ouda Ibrahim, le cinéma burkinabé, est de retour au sommet.
L'étalon d'or de Yenanga revient au Burkina Faso 28 ans après. Gagné en 1987 par Gaston Caboret, c'est le burkinabé Dany Kouyaté qui arrache le Saint Graal du FESPACO 2025. Son film Katanga ou la danse de scorpions est, selon le jury, à caractère intemporel et universel. Le film marque son ancrage culturel dans l'actualité du pays. Il a également remporté le prix du public remis pour la première fois au FESPACO cette année. Tout comme le jury, le vainqueur a rendu un vibrant hommage au cinéaste malien Souleymane Cissé, choisi comme président du jury mais décédé quelques jours avant le début du festival. Un artiste peut partir mais ne meurt jamais, a affirmé à la tribune l'écrivain membre du jury Martin Zongo, alors que la salle applaudissait debout la mémoire de Cissé, deux fois vainqueur de l'étalon d'or. Quant à l'étalon d'argent, il a été décerné au réalisateur somalien Mo Harawi pour son film Le village aux portes de paradis. Enfin, l'étalon de bronze de cette édition est revenu à la Zambienne Rangano Nyoni, devenir une pintade pour sa singularité et sa subtilité.
Ouda Ibrahim, Dany Kouyaté qui a dédié hier dans son discours son prix à Souleymane Cissé. Il est dans nos cœurs et dans nos esprits. Il a tracé la voie que j'essaie de suivre, a-t-il déclaré. Dany Kouyaté qui succède au Tunisien Youssef Chebbi, vainqueur de l'étalon d'or de l'édition 2024. L'actualité dans l'est de la RDC est la présence de soldats ougandais signalés à Mahagi, ville du nord de la province de l'Ituri. L'Ouganda participe depuis 2021 à l'opération Shuja, objectif neutraliser les ADF, sauf que la ville de Mahagi ne fait pas partie de la zone d'action de ces rebelles. Un porte-parole de l'armée congolaise sur place indique que l'objectif est de protéger la population et qu'un accord a été signé pour élargir la zone des opérations. L'armée nigérienne, elle, a été victime d'une attaque djihadiste. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi à Ekade, village du nord du pays dans la région d'Agadez. Toujours pas de bilan officiel des autorités. Des soldats ont été la cible d'une attaque djihadiste. Lisa Fabian, que sait-on exactement de ce qu'il s'est passé ?
Des hommes lourdement armés montés à bord de pick-up ont surpris les soldats nigériens dans leur sommeil. Après de violents combats, les assaillants ont réussi à prendre le contrôle de la position militaire, si l'on en croit les images publiées sur les réseaux sociaux. Selon des sources sécuritaires, le poste avancé a été complètement détruit et pillé. Une section comptant 30 à 40 hommes y était positionnée. Dans un communiqué, le JNIM revendique avoir tué 15 militaires nigériens et fait 5 prisonniers dans cette attaque, qui leur a également permis de mettre la main sur des armes et 3 véhicules militaires. La radio nationale a indiqué que 11 corps sans vie ont été enterrés ce samedi à Agadez. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes et son adjoint ont assisté aux funérailles. Ils se sont également rendus sur les lieux de l'attaque, a-t-on appris. Et Kadey est une zone rocailleuse, difficile d'accès, dont la défense est complexe vu son éloignement des premiers renforts militaires. Une source sécuritaire estime que les responsables de cette attaque meurtrière ne veulent pas que le passage de leurs marchandises par ce corridor soit perturbé par la présence des forces armées nigériennes.
Récit signé Lisa Fabian. Un hymne à l'engagement et à la liberté au Togo. Les soutiens d'Affectio se mobilisent pour sa libération. Cet activiste a été arrêté pour avoir publié un poème fait à part, un texte engagé notamment contre l'oppression du pouvoir en place. Ces quelques vers lui ont valu l'arrestation, puis la prison. Il est toujours incarcéré. La cour d'appel de Lomé a refusé sa demande de liberté provisoire. Un comité de soutien et une pétition ont été lancés à ce stade. Elle obtient environ 700 signatures. Il veut mobiliser ses militants, mais pour l'instant, il est toujours absent des listes électorales. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est en pré-campagne pour l'élection présidentielle. On votera en octobre prochain dans le pays pour élire un nouveau chef de l'État. Et à 8 mois du scrutin, le leader du PPACI entend marquer les esprits. Il était hier en meeting à Kokodi, quartier huppé d'Abidjan. Notre correspondant Abdoulaziz Diallo était sur place pour RFI.
Soyez forts. Il faut que chacun, à partir d'ici, aille faire campagne pour que nous reprenions le pouvoir.
L'ancien chef d'État donne une mission à ses partisans, investir le terrain et convaincre les électeurs. Mais un obstacle de taille demeure. Laurent Gbagbo n'est toujours pas sur la liste électorale. Il n'est donc ni électeur, ni éligible. Mais cela n'entame en rien la détermination de ses militants.
Le nom n'est pas sur la liste, mais quand même nous sommes là. Je suis sûr qu'il sera sur la liste, donc je ne vais pas me décourager. Et les militants ne se découragent pas. Nous, on sait, on est conscient qu'il sera sur la liste.
Un optimisme partagé par cet autre partisan qui voit en Laurent Gbagbo un symbole pour la jeunesse.
Ce combat qu'il mène là, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour nous jeunes. Donc voilà pourquoi nous aussi nous le soutenons avec Laurent Gbagbo 2025. Nous allons prendre ce pouvoir.
Dans son discours, Laurent Gbagbo n'a pas mentionné son absence sur les listes. Un sujet pourtant dans tous les esprits. La commission électorale indépendante doit publier la liste électorale provisoire le 17 mars. D'ici là, l'opposition continue de réclamer une nouvelle révision du fichier électoral avant la présidentielle. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Quelques jours après Moody's, c'est au tour de l'agence de notation S&P de sanctionner l'économie sénégalaise. La note du pays passe de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Concrètement, eh bien, cela veut dire que le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'avant. Alexis Bédu, c'est la conséquence, entre autres, des révélations de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques et sur la dette plus élevée qu'annoncée par les anciennes autorités.
Le rapport de la Cour des comptes sénégalaise publié le 12 février dernier a pesé lourd dans la balance. La dette atteint quasiment 106% du produit intérieur brut. Les déficits cumulés entre 2019 et 2024 sont deux fois supérieurs aux chiffres officiels. Alors après Moody's lundi dernier, c'est au tour d'S&P de dégrader la note sénégalaise. L'agence de notation n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation. Inquiétude forte sur la soutenabilité de la dette alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. En réponse aux chiffres révisés, le gouvernement a proposé un plan visant à réduire les déficits budgétaires futurs à 3% d'ici 2027. Ajustement difficile à mettre en œuvre et pari risqué selon S&P qui pointe également les incertitudes sur la croissance du pays. Elle est estimée à 9% grâce aux champs pétroliers et gaziers et c'est un mécanisme classique en économie. La dynamique pourrait bien être freinée par les efforts de réduction des déficits.
Alexis Bédu du service économie de RFI. En bref, en Afrique du Sud, des centaines de personnes étaient rassemblées hier au Cap, manifestation pour rendre hommage à Mohsin Hendrix, le premier imam gay au monde, a été tué il y a quelques semaines, assassinat qui avait choqué le pays. Cyril Ramaphosa avait alors parlé d'une attaque odieuse. À ce jour, personne n'a été arrêté dans cette affaire. Le président sud-africain, qui était hier en Namibie, le pays rendait hommage à son premier président, Sam Nujoma. L'ex-chef d'État et père de l'indépendance est mort le 9 février dernier. Il avait 95 ans. Sam Nujoma, le fils le plus éminent de la Namibie, un géant, dit l'actuel président. Hier, 1er mars, a été décrété jour férié en son honneur. C'est une décision qui a pris de court les acteurs humanitaires du monde entier. L'administration Trump a drastiquement diminué les financements de l'USAID, l'agence américaine de développement, 92% d'argent en moins. Alors forcément, pour les ONG, cela représente un manque à gagner considérable, notamment en Afrique. Exemple ce matin, avec Action contre la faim, le groupe est contraint d'arrêter une cinquantaine de ses programmes dans une vingtaine de pays. Elodie Andro est directrice des opérations à Action contre la faim.
Ce sont tous des programmes humanitaires d'urgence autour de la santé nutritionnelle, de la santé primaire des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes, mais aussi des programmes liés à l'eau et à la sanitation, et aussi en fait des programmes liés à la sécurité alimentaire. Par exemple, sur la RDC, en 2025, Action contre la faim, en collaboration avec le système de santé congolais, prévoyait de traiter 45 000 enfants sévèrement malnutris et d'apporter des soins de santé à 360 000 enfants. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on maintient le traitement des enfants sévèrement malnutris déjà admis dans nos structures jusqu'à fin avril. Par contre, nous sommes forcés, avec cet arrêt brutal, d'arrêter en fait les nouvelles admissions d'enfants malnutris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maman qui se présente à l'un de nos centres, en fait, avec son enfant de moins de 5 ans sévèrement malnutri, et la plupart du temps avec des complications médicales, nous ne pouvons plus le prendre en charge. Et il n'y a pas d'autre alternative, ce qui fait que cet enfant est en danger de mort.
Propos recueillis par Pierre Firsion. En réponse, Action contre la faim appelle l'Europe à se positionner et à incarner les valeurs du droit humanitaire international. Un mot du programme à venir dans les prochaines minutes sur RFI à partir de 8h10. Temps universel, c'est Afrique, mémoire d'un continent. Avec aujourd'hui un épisode consacré à l'histoire de l'excision. Comment expliquer sa longévité et quand les femmes ont-elles été excisées pour la première fois? On en parle avec l'historienne et journaliste Sophie Bessy. D'ici là, je vous laisse avec Julien Coquelroem pour la dernière ligne droite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure.